Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retournons un peu plus de 2000 ans en arrière, à l'époque gallo-romaine, alors que Saintes, ou plutôt Mediolanum Santonum, la cité des Santons, était la capitale de la Gaule Aquitaine et rayonnait sur toute la région. Et nous mettons à l'honneur l'une des infrastructures les plus célèbres de l'époque gallo-romaine, une route qui a traversé la France et les siècles aussi, la Voie d'Agrippa, plus connue sous le nom de Via Agrippa. Quelques décennies après la conquête de la Gaule par Jules César, puis la fin de la République romaine en 27 avant Jésus-Christ, Caius Octavianus, que le Sénat propose de surnommer plus simplement Auguste, titre habituellement réservé aux divinités, Auguste devient le premier empereur romain. Il charge son ami et consul, Marcus Vipsanius Agrippa, d'organiser les différentes provinces des Gaules, en mettant en place des infrastructures dignes de ce nom, notamment un réseau routier permettant de relier les différentes provinces des Gaules conquises de haute lutte. La ville de Lyon, Lugdunum, est alors la capitale des trois Gaules. Elle va ainsi se retrouver au carrefour de quatre routes majeures. Un axe reliant Lyon à la Manche jusqu'à Boulogne-sur-Mer, un axe filant vers le sud par la vallée du Rhône en direction de Arles, puis Narbonne, un axe reliant Lyon à l'Allemagne actuelle par la vallée de la Saône, le plateau de Langres, le Rhin, les villes actuelles de Trèves et de Cologne, et enfin un axe vers l'Atlantique, jusqu'à Saintes, Mediolanum Santonum. Un axe qui sera prolongé plus tard vers Bordeaux, Burdigala, lorsque la ville deviendra à son tour la capitale de la Gaule Aquitaine, à partir de la fin du 1er siècle. C'est cette quatrième route que l'on appelle la Voie d'Agrippa, la Via Agrippa. Lugdunum, Mediolanum Santonum, Lyon-Saintes, un axe transversal passant notamment par Clermont-Ferrand, ou encore Limoges, Augustoritum, pour les puristes. Quasiment le même axe qu'empruntera bien plus tard le chemin de fer. Si certains axes routiers existaient déjà, en partie au moins, à l'époque celtique, Marcus Vipsanius Agrippa va les retracer, les consolider et les prolonger. De nouvelles routes, principales ou secondaires, vont voir le jour. À l'apogée de l'Empire romain, on compte des dizaines de milliers de kilomètres de voies romaines. Dans la mesure du possible, quand la configuration du terrain le permet, ces voies romaines sont en ligne droite. Elles contournent cependant les zones les plus escarpées, les marécages, et évitent les rives inondables des grands cours d'eau. Elles franchissent les ruisseaux, les rivières sur de petits ouvrages d'art en bois ou en pierre, et souvent sur des passages à gué. Ces voies romaines sont bombées pour permettre l'écoulement des eaux de pluie en direction du fossé de drainage. En temps de paix, les soldats sont chargés de leur construction. Pour la construction du réseau secondaire, des esclaves, des prisonniers, mais aussi des riverains sont mis à contribution. Les premières voies romaines ont surtout une fonction stratégique, militaire. Elles facilitent les mouvements de troupes d'une région à l'autre, mais très rapidement, les marchands vont comprendre l'intérêt pour eux de les emprunter pour développer des échanges commerciaux à travers les différentes provinces des Gaules. Les voies romaines sont alors jalonnées de bornes militaires hautes d'environ 2 mètres, ancêtres de nos panneaux routiers actuels, portant des inscriptions indiquant la distance jusqu'à la prochaine étape, le prochain vicus ou village, ou la prochaine civitas ou ville. On retrouve ces bornes à l'intersection des voies romaines, près des ouvrages d'art, ainsi qu'à la limite des villes, provinces ou pays. Aujourd'hui, la toponymie nous renseigne pour retrouver le tracé de la Via Agrippa, notamment dans les deux Charentes. Sur les cartes de l'Institut Géographique National, la Via Agrippa s'appelle tour à tour Chaussée des Romains, Chemin des Romains ou encore Chemin Pierré. Parfois, on distingue encore parfaitement son tracé, toujours emprunté par une route, un chemin de campagne. Et parfois, elle a disparu sous les vignes, les bois ou les champs de céréales. Dans la traversée du département de la Charente, la Via Agrippa desservait le village de Cassinomagus, Chassenon, dont les thermes figuraient parmi les plus importants des trois Gaules. On trouvait également un temple et un théâtre. C'est aujourd'hui un site archéologique majeur pour découvrir le patrimoine gallo-romain. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, en continuant vers l'océan, la Via Agrippa traversait l'actuelle commune de Saint-Cybardeau, près de Rouillac. Dans ce village appelé Germanico-Bagus, on trouvait également un temple et un théâtre antique, le Théâtre des Bouchots, l'un des mieux préservés de la région, dans un magnifique écrin de verdure. En passant sur la Via Agrippa, le militaire, le marchand, le voyageur pouvaient apercevoir le temple construit sur un promontoire. Le théâtre antique se trouvait juste en contrebas. En continuant vers l'ouest, on retrouve la Via Agrippa à Cherves-Richemont, puis dans la traversée du charmant village de Saint-Sauvent, où elle franchissait deux cours d'eau, le Pidou et le Coran. et au terme d'un long périple de plusieurs centaines de kilomètres, le tracé de la Via Agrippa se terminait donc à Sainte, Mediolanum Santonum, avec une arrivée magistrale sous l'arc romain, dédiée à Tibère, Drusus et Germanicus, et la traversée du pont antique, franchissant la Charente. Ancienne capitale de la Gaule Aquitaine, comme nous l'avons rappelé, Sainte devait se doter d'infrastructures à la hauteur de sa notoriété, de son développement démographique et économique, et de son rayonnement culturel, avec notamment des aqueducs pour aller chercher l'eau du côté de Fontcouverte, Vénéran ou encore le Douai, des édifices publics, des lieux de plaisir, des bains et des thermes, et bien sûr des routes. Avant de devenir bien plus tard une étoile ferroviaire, Sainte était déjà une étoile sur la carte routière de la Gaule Aquitaine, au carrefour de plusieurs voies romaines importantes. Citons par exemple la voie romaine en direction de Poitiers, passant notamment par la tour ou pyramide d'Othon et Béon, ou encore Aulnay de Saintonge. Une autre voie romaine en direction de l'océan et l'estuaire de la Gironde, via Saint-Romain de Benet. Nous nous sommes déjà intéressés à la tour de Pierre-Longe et au camp de César, situé sur cette commune. Cette voie rejoignait l'actuelle ville de Saujon avant de filer vers Sémussac, et enfin Barzan, où se trouve un autre site archéologique majeur de notre région, le site gallo-romain du Fa. De Sainte, le voyageur pouvait également emprunter une voie romaine filant vers Pont, via Ténac, passant à quelques centaines de mètres du théâtre antique de Ténac, désormais situé en pleine campagne. On retrouve la trace de ces voies romaines un peu partout dans la campagne saintongeaise. Rien de tel qu'une bonne carte ou des photos aériennes pour renseigner les passionnés. Avec la chute de l'Empire romain, avant la fin du 5e siècle, la majorité de ces voies romaines ne seront plus entretenues. Pourtant, la Via Agrippa, ou voie romaine numéro 27, reste symboliquement un lieu unissant deux villes, Lyon et Sainte, deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, qui conservent l'une et l'autre des vestiges gallo-romains d'exception. À visiter sans modération. Belle journée à tous.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du patrimoine sur Demoiselles.